Bienvenue sur Génération Liée, un podcast de Peuple et Culture. Pour faire simple, Peuple et Culture, qu'on appelle aussi PEC, c'est un groupe d'associations réparties partout en France. Notre but ? Promouvoir une éducation qui ne s'arrête pas à l'école, mais qui continue tout au long de la vie. Chez PEC, on pense que tout le monde devrait pouvoir exprimer ses opinions et être acteur et actrice de la vie démocratique de manière égale. Pour ça, on propose aux gens de développer leur esprit critique à travers des activités éducatives, culturelles, artistiques et même des rencontres de jeunes. Ces idées sont au cœur de Peuple et Culture depuis sa création, il y a 80 ans, quand d'anciens résistants ont misé sur l'éducation pour reconstruire la société après la guerre. Ce podcast vise à interroger différents sujets, comme la montée de l'extrême droite, l'interculturalité, l'inclusion, la place des femmes et les enjeux écologiques qui portent depuis longtemps et portent encore les travaux de nos assos. Ainsi, des personnes de tout âge, de toute génération se succéderont au micro pour échanger sur ces sujets parfois complexes, en partageant leurs points de vue et leurs expériences. Rejoignez-nous pour échanger et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bonjour à tous, donc je suis Sonia, en service civique à l'Union Peuple et Culture, et je suis aujourd'hui avec André et Tatiana pour que l'on discute ensemble de la place des femmes dans les instances associatives, notamment d'éducation populaire et donc plus particulièrement à Peuple et Culture, et aussi pour discuter donc de la reconnaissance des femmes dans la construction historique de ces mouvements, et ouvrir aussi la discussion sur la place des discours et des luttes féministes dans des associations, dans l'éducation populaire. Donc déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter peut-être un peu plus en détail pour nos auditeurs et nous faire part un peu de votre parcours dans le milieu associatif et même en général, ce que vous faites, ce que vous avez fait.
Alors, je m'appelle André Durand, du nom de mon père, puisque je suis restée officiellement toujours célibataire. Et j'ai découvert Peuple et Culture en 61 et j'ai adhéré à 61 jusqu'à présent. Je suis retraitée. Mon dernier emploi, c'était la direction départementale jeunesse et sport du Puy-de-Dôme. J'ai eu des longues années de détachement de mon métier d'institutrice à Peuple et Culture 63. Voilà. Autrement, j'ai eu un engagement politique que j'ai toujours à gauche. Et je suis encore militante dans une association.
Et moi, Tatiana, donc j'ai 33 ans, je vis à Montpellier. Je suis aujourd'hui coordinatrice de projet culturel pour une association d'éducation populaire, mais plutôt liée aux arts de la rue. Et je travaille spécifiquement en milieu rural et de manière nomade en Occitanie. Je connais Peuple et Culture depuis bientôt 10 ans, parce que j'ai eu l'opportunité de faire un stage, puis d'être salariée d'une association du mouvement IPEC à Montpellier, pendant presque 8 ans. Et en quittant IPEC pour de nouvelles aventures, j'avais pas tellement envie de quitter Peuple et Culture. Et donc j'y suis restée en tant qu'adhérente individuelle et je fais partie du collectif maintenant. Et puis par ailleurs, je suis assez engagée dans des actions et dans des collectifs militants des politiques et assez féministes aussi. Pas de manière structurée, enfin je fais pas partie de l'organisation de certains collectifs, mais en tout cas je papillonne, je suis plutôt soutien dans l'organisation à différents endroits.
J'ai pas dit mon âge, j'ai encore 87 ans jusqu'au milieu du mois.
Donc on va discuter dans cette première partie plutôt donc de l'engagement associatif des femmes et aussi de leur place dans les instances associatives. Donc pour les statistiques, je m'étais appuyée sur un document qui avait été sorti par l'INJEP en 2023 qui disait que les femmes étaient encore assez peu présidentes des associations aujourd'hui et qui reprenait des chiffres de l'INSEE qui disait qu'elle composait 35% des présidences de l'ensemble des associations. Là, il y a bien sûr des nuances à faire en fonction des secteurs de ces associations. Mais en tout cas, le document relevait que plus l'association était grande et employeuse, moins les femmes aussi étaient présidentes de ces associations-là. Et elles avaient en général plus souvent le rôle de secrétaire dans les bureaux. Et quand j'ai pu discuter aussi avec des personnes donc à Peuple et Culture ou du milieu associatif en général, sur cette question de la place des femmes, souvent ce qui était ressorti, c'était que ces femmes se retrouvaient davantage dans des rôles opérationnels que décisionnels. Et donc je voulais savoir si c'est quelque chose dont vous avez pu être soit témoin personnellement, soit dont vous avez pu parler avec des collègues. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution quand même de cette division genrée, ou elle n'était pas si marquée aussi dans les milieux que vous avez connus?
Moi, je pense, en tout cas, quand j'ai découvert Peuplé Culture, j'ai tout de suite été surprise par le nombre de femmes à la présidence et ou à la direction de structures. Et vraiment des femmes avec une passion et une militance très forte. J'ai découvert l'association IPEC en 2013 et Peuplé Culture en 2014-2015. Voilà. Et à cette période-là, enfin dans cette génération-là, je trouve qu'il y a eu... Enfin, moi, j'ai été vraiment marquée à cette époque-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, même si évidemment Peuplé Culture ne fait pas exception à cette règle qui fait que plus on est dans l'opérationnel, plus il y a de femmes, plus on monte dans la gouvernance, moins il y en a. Mais on n'a pas à rougir de l'implication et de la place des femmes dans l'organisation. Dans le conseil d'administration, il y a 15 femmes sur 23.
Ah, c'est très bien.
Donc c'est énorme. Mmh. Et dans le collectif, donc, qui est l'instance de direction, il y a 4 femmes sur 7. Donc ce qui est majoritaire aussi. Mais finalement, si on veut être critique, la proportion entre le volume de femmes dans le CA et dans le collectif n'a rien à voir. Mmh. Et donc, si on avait un collectif avec des femmes qui s'autorisaient en fonction de l'évolution dans les strates de gouvernance, à être aussi sur des espaces de gouvernance et de direction associative, on devrait avoir quelque chose comme 5 ou 6 femmes, en fait, sur 7. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'assez contemporain, finalement, aussi, d'interroger la présence et la place laissée par les hommes aux femmes dans les gouvernances. Mais moi, j'ai une question aussi. C'est vrai qu'on parle, dans l'histoire de Peuplé Culture, on parle souvent des hommes qui ont construit Peuplé Culture. On sait qu'il y a des femmes, elles sont moins présentes, elles sont un peu plus dans l'ombre, et je me demandais comment c'était à... Dans les années 60, toi, au départ
Dans les années 60, moi, j'ai connu deux cofondatrices, Ginette Caceres et Paulette Porquer. Et elles m'ont bien accueillie, d'ailleurs. Il y avait quand même une solidarité. Bon, c'est vrai qu'elles n'étaient jamais citées dans les fondateurs, par exemple. Hein, c'était Caceres, Dumasdier, Auvent. D'ailleurs, il y en avait d'autres qui n'étaient pas citées. Hein. Il n'y avait pas seulement les femmes qui n'étaient pas citées. Oui, et puis j'ai envie de vous le citer parce que Antoinette Fouque est venue à un moment donné. Antoinette Fouque, c'est la présidente du MLAC.
Oui, pour que les auditeurs comprennent mieux, c'est l'acronyme pour le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
Alors vous avez formé, oui, un groupe séparé de femmes qui se réunissaient au café pour discuter des questions féminines à l'intérieur de Peuplé Culture. Et... Moi, je me marrais plus avec à côté.
À quelle époque
Antoinette Fouque, c'était autour du mouvement féministe, là. C'était pas loin de 68. Mais par contre, moi, j'ai été dans les mouvements féministes pour les questions de droits des femmes, à la contraception et à l'avortement. Alors là, il n'y avait pas un pli, j'y étais et je militais. Mais je ne voyais pas de discrimination. Enfin, moi, je me sentais bien. Dans un milieu mixte, j'avais la place que je voulais prendre, hein, franchement. Comme ma grand-mère et ma mère avaient su le faire.
Oui. Oui, j'ai la sensation aussi que la place n'était pas forcément laissée aux femmes, mais s'il y avait des femmes un peu chargées de convictions et qui étaient prêtes à prendre leur place, c'était possible, quoi.
On voit une... bien qu'elle se lance, une féminisation de ce secteur associatif, dans les bureaux, dans la masse salariale aussi des associations. En discutant avec mes collègues de PEC, ça en a interrogé certains aussi sur un possible, si c'était juste des femmes qui s'engageaient plus ou s'il y avait aussi un possible désengagement des hommes de ce milieu associatif, qui pourrait être lié par exemple avec la précarisation de ce milieu. Donc je voulais déjà vous interroger sur ça. Et aussi parce que, même en ce qui concerne les publics qui sont touchés par exemple, l'éducation populaire, en tout cas, à l'Union, on relève aussi qu'il y a moins d'hommes qui sont présents aux actions, par exemple, de formation, etc., qu'avant. Est-ce que, pour vous, les hommes quittent aussi ces espaces plutôt d'éducation, d'instruction, ou est-ce qu'ils ont toujours été plutôt minoritaires? Et quelles seraient les raisons, et qu'est-ce que cela signifie sur le milieu associatif, sur ce secteur de l'éducation, de la formation?
Avant, être formateur à Peuplé Culture, c'était extrêmement prestigieux. Et c'était les salaires à Peuple Culture étaient intéressants. Hein. La formation des animateurs a eu tendance à se fonctionnariser quelque part. Les animateurs deviennent socioculturels. Pour ma part, en fin 92, quand j'ai quitté la Peuple Culture pour re-rentrer à Jeunesse et Sport, j'ai eu la pénible impression d'avoir formé des animateurs pour occuper surtout des seuls loisirs de distraction. Il est sûr que les hommes ont besoin de... Enfin, généralement, s'ils sont mariés et chefs de famille, ils ont besoin d'avoir un emploi stable, qui... bon, c'est plus le cas quand on est professionnel dans ce secteur. Et les femmes, bon, prennent ce qui est possible d'avoir pour elles, et c'est le lieu de la féminisation. Ça ne veut pas dire qu'elles font le plus mauvais boulot, hein.
Je pense que cette histoire de précarisation, en tout cas, le fait qu'il y ait moins de prestige à travailler à Peuple Culture, ça n'a plus la même signification aujourd'hui qu'il y a quelques dizaines d'années. Et puis, la sensation aussi que ça reste un peu dans la genèse des actions féminines, de prendre soin, de transmettre. Il y a quelque chose aussi qui s'est un peu transformé dans la formation et dans les pratiques d'éducation populaire, où on est aussi sur des savoirs plus larges, enfin sur des choses qui, où la question de l'émancipation elle n'est plus uniquement que politique ou par la formation, comme ça a pu l'être aussi peut-être plus à l'origine de Peuple et Culture. On a diversifié les espaces d'intervention, on est plus allé vers de l'animation aussi socioculturelle.
Oui.
Et je pense que ça, c'est des champs d'action qui intéressent beaucoup moins les hommes que les femmes. Mais dans cette question-là aussi, ce qui m'interroge, c'est cette sensation qu'on a aussi beaucoup orienté le travail auprès des publics femmes, féminins. L'émancipation des femmes, enfin, le fait d'aider les mamans à sortir du foyer, enfin, ces choses-là, etc., qui sont à la fois des choses que je ne remets pas en cause, hein, qui sont intéressantes. Mais quand on creuse un peu, je me dis, c'est quand même intéressant et questionnant de se dire qu'à chaque fois, c'est encore les femmes et les mamans qu'on va responsabiliser de la bonne tenue de leur foyer, du loisir des enfants, de leur capacité à être une bonne mère, une bonne femme de foyer, et aussi une salariée ou en tout cas une femme émancipée socialement ou professionnellement. Et du coup, il y a de plus en plus d'associations dans le champ de l'éducation populaire qui font aussi des groupes de papas ou des activités avec les hommes. Et je trouve ça intéressant aussi d'inviter les pères et les hommes à reprendre aussi un rôle d'alliés dans l'éducation des enfants. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui m'ont questionné récemment.
Je pense aussi qu'il y a le problème des familles monoparentales qui s'est considérablement accru, avec plus quand même de possibilités de garde d'enfants, avec les crèches, les garderies après scolaires, l'entrée très jeune en maternelle et tout ça, qui font que les métiers de l'animation était possible pour les mères qui étaient un peu plus coincées au foyer. J'ai envie de vous citer une opération qui a été menée par une femme en Auvergne, Angelina Berforini. C'était dans les années 81-82. Ça s'appelait « Si vous sortiez voisine ». Parce qu'on avait remarqué que les femmes qui restaient à la maison, comme les ménagères, ne se rencontraient qu'en sortie d'école. Et donc avaient très peu de vie sociale. Les assistantes sociales faisaient des regroupements où on leur apprenait à cuisiner, à s'occuper du linge, à coudre. On a fait des sorties, toutes les semaines, des sorties culturelles pour ces femmes. Et alors, on leur parlait des institutions, comme le conseil général, on les emmenait au cinéma, il y avait des ateliers de musique. Et ça a été repris ensuite par les assistantes sociales qui ont repris le thème et les sorties culturelles dans leur travail. Vous voyez, alors ça a été une bonne opération, parce qu'on avait senti quand même que, quelque part, c'était notre façon d'être féministe.
D'ouvrir des nouvelles opportunités.
Penser que des activités culturelles pour les gens qui n'avaient pas l'occasion, qui étaient coincés chez elles, quoi.
Pour élargir un peu la question de cette présence des femmes, je voulais interroger aussi leur présence dans d'autres types de collectifs ou d'organisations. Vous avez fait partie d'organisations aussi plus politiques, de partis, d'organisations syndicales qui étaient des milieux plus masculins. Donc je voulais savoir si vous pouviez témoigner aussi de difficultés à trouver sa place en tant que femme dans certaines organisations plus que d'autres. Et si vous pensez qu'il est donc plus facile de trouver sa place dans une association d'éducation populaire.
Ça doit être un sujet hors norme. Quand je suis allée dans un parti politique, j'ai eu une responsabilité. J'ai été trésorière fédérale à un moment donné. Par contre, je cite, au Parti socialiste, c'était un peu plus difficile, mais mon appartenance, enfin mon travail dans les associations culturelles les intéressait beaucoup. Et même quand j'ai eu des difficultés à tout ça, ils m'ont facilité ma réinsertion dans le milieu professionnel. Mais j'étais célibataire aussi, hein, et donc très très disponible, ce qui n'était pas le cas de mes collègues. Par contre, vous voyez, les femmes quand même laissaient leur mari prendre les postes de responsabilité. Même dans les milieux enseignants, les syndicats d'enseignants étaient toujours, c'était toujours un secrétaire général qui était un homme. Maintenant, vous voyez, le problème de la présidente des associations, c'est il est difficile quand même encore pour les femmes, sauf si elles ont l'âge, tout ça, mais des jeunes femmes, avoir de l'autorité, par exemple, sur un conseil d'administration composé en partie d'hommes.
C'est plus facilité, j'ai l'impression. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de on laisse la place aux femmes, parce que ça fait bien aussi, en plus d'avoir des femmes aujourd'hui à la gouvernance.
Ah oui, c'est vrai que c'est à la mode. Oui.
C'est à la mode, donc voilà. Après, derrière, est-ce qu'elles ont la place vraiment de s'exprimer ou d'avoir des responsabilités? Ça, c'est autre chose. Moi, j'ai la sensation quand même que, enfin, dans mon expérience perso, ça a été plus simple de trouver ma place et d'avoir... d'arriver à naviguer avec des responsabilités ou pas, mais dans des milieux d'éducation populaire plutôt que dans des milieux politiques. Je me rappelle notamment pendant la période de Nuit Debout, je m'étais pas mal engagée personnellement en tant que citoyenne dans Nuit Debout. J'allais régulièrement, enfin tous les samedis, dans les rencontres, et j'étais jeune maman à l'époque. Et ça, certains militants hommes ne le savaient pas. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose, c'était jamais vraiment pris en compte, notamment par certaines personnes de partis politiques, c'est pour ça que je fais le lien. Et jusqu'au moment où, comment, pourquoi, je sais plus, mais ils ont appris que je travaillais, j'avais un emploi à temps plein, que j'avais un petit garçon qui à l'époque avait 2-3 ans, et qu'en plus j'étais là tout le temps, et que du coup, tout d'un coup, j'avais gagné une sorte de prestige ou de légitimité à être là, et là, on m'a laissé la place pour m'exprimer. Et alors à ce moment-là, du coup, j'ai arrêté, ça m'a énervée, parce que je me suis dit que c'était pas juste, en fait, que ma parole soit tout à coup entendue, parce que d'autres raisons, alors qu'avant, elle ne l'était pas. Et du coup, je trouve qu'il y a une culture, quand même, dans l'éducation populaire plus forte de une forme de parité. En tout cas, j'ai traversé deux mouvements d'éducation populaire, qui sont les Francas et Peuplé Culture, et ça a été le cas à chaque fois. Même si, et c'est pas du tout pour descendre les Francas que je vais dire ça, même si la place des femmes dans les Francas que moi j'ai connues était pas énorme, hein. En tout cas, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient pour les Francas dans les instances de direction, c'était quasiment que des hommes. Donc, ce que vous disiez sur la question de l'autorité aussi d'une femme, la légitimité, ces choses-là, c'est des choses qui sont toujours présentes, et même aujourd'hui, à Peuplé Culture, il y a des rapports de domination qui se jouent, mais même entre hommes et hommes, hein, c'est pas que hommes et femmes, il y a une culture aussi du verbe, de l'opposition d'idées, qui est hyper intéressante, parce qu'elle nourrit la pensée, mais qui parfois écrase complètement des personnes et des propos, et notamment des femmes, parce qu'il faut oser, réussir, sentir légitime, avoir le bon argumentaire, savoir poser la voix plus haute que les autres pour y aller, et c'est pas simple.
Ouais. Par contre, il y a aussi, par exemple, des femmes au pouvoir qui sont terriblement non-féministes, avec des rivalités qui sont pas drôles à supporter. J'ai eu des problèmes avec les directrices de Peuplé Culture.
J'ai la sensation, alors c'est une analyse complètement perso, hein, mais ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines femmes à Peuplé Culture qui se sont aussi construites un peu dans ce schéma-là de très autoritaire ou un peu de domination, et qui, j'ai la sensation qu'il y a pu avoir une période aussi de direction féminine qui finalement rejouait un peu les mêmes codes. Il y a cette question de la, être une femme ne veut pas forcément dire être solidaire des autres femmes. Même si quand même, pour contrebalancer, c'est quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt, il y a toujours, j'ai l'impression, et dans ce que j'entends, peut-être il y a toujours eu des réseaux un peu souterrains d'entraide entre les femmes à peuples et cultures, enfin, peut-être en général.
Ah oui, aussi. J'ai remarqué une chose quand je suis venue à l'Assemblée Générale de PEC, là, que il y aurait grand besoin pour les femmes de peuples et cultures d'apprendre à parler en public d'une façon audible, tu vois. Parce que vraiment, là, il y a une formation qui manque, et qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'acquièrent pas autant de facultés à attirer l'attention et à retenir l'attention, à part la qualité de leur voix et par les argumentaires. Tu vois, il y a une formation à faire là-dessus.
Mais oui, c'est intéressant sur la question de la capacité à prendre la parole et à être entendu par la manière dont on a de poser les...
Eh bien, on les entend mal parce qu'elles n'ont pas appris à poser leur voix et tout ça. Or, la voix féminine peut être tout aussi audible qu'une voix masculine, tout aussi agréable à entendre si elle est bien posée, si elle est bien placée. Je dirais que, tout à fait au début de PEC, les femmes étaient le soutien des hommes. La cheville ouvrière, le soutien des hommes dans leur action, mais qu'elles faisaient aussi beaucoup de choses. J'y en sorte peut-être, mais je crois que les hommes avaient besoin de montrer leur supériorité, même s'ils n'en étaient pas sûrs. Et toute la société, d'ailleurs, les poussait à se rendre indispensables. C'était le chef de la famille. Le chef de bureau.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui change aussi. Globalement même, le fait d'être chef, d'être glorifié par sa capacité à décider pour les autres, c'est quelque chose qui est moins souhaité et souhaitable aussi. Enfin, il y a des choses qui évoluent dans l'éducation populaire aussi, où on est moins dans la glorification des personnes, on est davantage sur peut-être des manières de faire collectivement, c'est-à-dire que de plus en plus, les formateurs, trices, animateurs et animatrices sont plutôt aidants dans la prise de conscience, dans le fait de valoriser la richesse de chaque personne dans un groupe. Enfin, c'est les méthodes d'interculturalité, c'est la question des droits culturels. Ça se renforce quand même d'année en année. Et donc, du coup, la personnification et le savoir détenu par une personne et valorisé autour de cette personne est de moins en moins présent.
Moi, je pensais pas à l'éducation populaire, en fait, quand je disais ça. Tu vois, je pensais à la société en général, tu vois. Parce que les méthodes de peuple et culture, dès le début, ça a été le partage, la convivialité, le respect de tout le monde, et absolument pas de cours magistraux.
Oui, quand je disais la glorification de la personne, c'est pas forcément les personnes elles-mêmes qui se mettaient à cette place-là.
Il y avait aussi comment
les personnes accueillaient ces personnes.
Accueillir ces personnes-là, c'était... Et ça marchait. Si peuple et culture s'est implanté dans le Puy-de-Dôme, c'est parce que le premier président de PEC avait, dans une autre association, invité Dumasdier, Rovan et Caceres à faire des conférences. Et bon, des conférences très magistrales et très vedettaristes, vous voyez.
C'est vrai que l'éducation populaire aujourd'hui a plus cette aura vedettariste. Enfin, on n'a plus de vedettes aujourd'hui d'éducation populaire comme ça l'était à l'origine de peuple et culture.
Oui, c'était les héros de la résistance.
Oui, voilà. Il y avait une histoire.
Une histoire forte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui se forment, et des collectifs qui sont intéressants quand même. Regardez, par exemple, avec la montée de groupes de la gauche, d'extrême gauche, avec beaucoup de femmes, les mouvements contre le réchauffement climatique et tout ça, les écolos, LFI, il y a énormément de femmes aussi. Hein. Ça a été des groupes qui se sont fondés en à peine 10 ans, hein, que le parti de Mélenchon s'est formé et l'importance que ça a eu quand même, et très féminisé.
Mmh. Et avec une grosse remise en question des fonctionnements en interne aussi, pour justement sortir de ces rapports de domination, parfois très genrés, et puis, enfin, genrés et pas que liés à la question du genre.
Les filles, parce que parti de gauche, c'était pas encore ça.
Je crois qu'il y a plusieurs partis pour lesquels c'est pas encore ça, mais en tout cas, c'est de plus en plus remis en question, fonctionnements-là. Parfois remis en question et ça aboutit à des changements de pratiques.
Oui.
Parfois, ça aboutit pas du tout à des changements de pratiques, mais bon.
Oui, c'est vrai. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est à un stade où énormément d'organisations vont être remises en question.
Je réfléchissais, ça me fait penser aussi à quelque chose d'un petit peu différent, mais il y a de plus en plus de groupes d'éducation populaire qui s'émancipent des mouvements d'éducation populaire fondateurs.
Oui.
Et il y a pas beaucoup, en tout cas moi dans mon entourage, je le remarque, de collectifs qui recréent des structures, des associations, des collectifs qui se revendiquent d'éducation populaire dans la méthode, mais qui s'affranchissent des mouvements d'éducation populaire. Et j'ai la sensation que quand il s'agit de mouvements plus liés à l'entraide, à la convivialité, à la question du bien vivre ensemble, souvent ce sont des collectifs qui sont plutôt portés par des femmes ou dans lesquels il y a des femmes.
Oui.
Et les collectifs plutôt liés à la question de la formation, la transmission d'outils d'éducation populaire, c'est bien plus souvent des hommes qui les portent aussi. Je pose ce constat-là.
Parce que la transmission d'outils, vous avez des stages où il y a des moyens financiers derrière aussi. Hein. Alors donc, parce que quelque part, les hommes ont salaire supérieur à ceux des femmes. Ils ont peut-être plus de responsabilités aussi vis-à-vis de leur famille que les femmes parfois, hein. Donc ça attire là où il y a du fric, enfin bon, c'est pas un peu normal, quoi. Oui.
Oui, je sais pas si c'est normal, mais ça s'explique.
Pour revenir un peu sur la reconnaissance donc des femmes dans la construction historique de PEC, on a déjà fait un peu référence quand même avec la place des justement des fondateurs et des cofondatrices dont on entend moins parler, qui sont moins visibles. Mais je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce sujet, sur des raisons qui pourraient expliquer que leurs actions soient moins visibles dans la construction historique, ou est-ce qu'elles ont moins contribué aussi à des productions écrites, ou pourquoi elles ont été moins sollicitées peut-être aussi.
Mais je pense qu'on n'a pas fait l'histoire des mouvements locaux, enfin régionaux et départementaux. Je pense que en Corrèze, le rôle de Manetti Chandier n'a pas en valeur. Puis on n'entend pas parler beaucoup de moi. Et dans pas mal d'endroits, quand on a eu des présidentes à peu près tout le temps. Je pense que c'était un lieu... C'était beaucoup plus féminisé, par exemple, que la Ligue de l'Enseignement, dans la direction du mouvement. Faut pas croire.
Je pense qu'aussi, il faut remettre dans son contexte, c'est qu'à cette époque-là, les femmes étaient plus souvent dans l'ombre des hommes et il y avait une culture d'être les petites mains d'une action, ou je pense qu'il y a quelque chose de très féminin aussi dans le fait de moins avoir besoin ou se sentir légitime que son nom apparaisse. Et puis il faut pas oublier que plus globalement l'histoire elle a souvent été écrite par des hommes avec un regard l'histoire là pour le coup pas que des mouvements d'éducation populaire, mais l'histoire avec un grand H, avec un regard très masculin, et qu'en fait il y a plein de choses de l'histoire qu'on a occultées ou à côté desquelles les historiens sont passés parce qu'ils ont pas regardé avec les bonnes, enfin, ou en tout cas avec toutes les lunettes. Et je pense qu'à Peuple et Culture il y a sûrement un peu de ça aussi, et que ce serait intéressant aussi de relire ou re-questionner l'histoire de Peuple et Culture avec ces lunettes là de la question des femmes et de l'importance des femmes dans le mouvement. Et je pense qu'en fait on serait agréablement surprise de l'importance des femmes au sein du mouvement, et peut-être on se questionnerait sur le pourquoi c'est pas si lisible que ça au final.
Je regardais l'anniversaire de la Commune de Paris. Combien de femmes on a retrouvées, très militantes. Beaucoup de femmes, hein.
Ouais.
Pas seulement Louise Michel.
Je voulais revenir avec vous sur les femmes vraiment en tant que militantes dans ces associations. Un peu questionner aussi quel type de profil elles ont eu, quel type de profil elles ont maintenant. Et on en a déjà parlé un peu, mais la façon de participer, de militer dans les associations.
Je trouve que c'est difficile de parler pour les femmes en général, parce que c'est... Oui. J'ai l'impression que peut-être que ce qui peut nous relier, au-delà de la question de la génération, c'est que il y a quelque chose de l'ordre peut-être un peu de l'audace ou d'un milieu de vie familial. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, on m'a toujours laissé la place pour parler, pour m'impliquer dans des organisations associatives. Mon papa était quelqu'un d'extrêmement militant, politique et associatif. Et donc, j'ai baigné dans ce milieu-là qui me facilite aujourd'hui mon implication dans des mouvements associatifs.
Une anecdote, ma mère m'a soulevée pour que je mette son premier bulletin de vote dans l'urne. C'est la première fois qu'elle votait et c'est moi qui ai mis son bulletin dans l'urne. C'est un symbole quand même, hein. Je pense que l'engagement des femmes se fait beaucoup plus facilement qu'avant quand même. Il y avait moins de machisme, certainement, et que la société évolue pas mal. Que les femmes n'ont pas été sous-considérées tout le temps, mais que c'est vrai qu'il fallait certaines conditions quand même, parce que quand la femme avait un gosse non voulu tous les ans dans les années juste après-guerre, où il n'y avait ni contraception et que l'avortement aboutissait à des drames singuliers, ça ne favorisait pas tellement leur participation sociale, ces problèmes-là. Et je pense que le féminisme s'est développé heureusement autour de ces questions primordialement et qui sont encore à défendre, hein. On a des rapports sociaux qui, dans l'ensemble, s'améliorent, hein. Il y a plus de questions humaines maintenant que de questions féministes tout court.
Oui, oui, j'ai l'impression en tout cas que dans ce qui traverse peuple et culture actuellement, c'est pas tant les questions féministes ou du féminisme en tant que tel que des questions plus systémiques de comment on arrive à vivre bien ensemble avec le moins d'écrasement de possible de groupes sociaux, quoi. On peut rentrer avec la question des classes sociales, la question de liée aux origines.
Les mouvements d'éducation populaire et FLEC ne sont pas juste féministes, ils s'intéressent vraiment à des questions de lutter contre les inégalités au niveau global et des rapports de domination globaux qui peuvent toucher énormément de milieux et de facteurs différents. En tout cas, il y a des outils et des démarches d'éducation populaire qui sont aussi reprises par des associations qui peuvent être féministes, par exemple. Pour vous, qu'est-ce que le modèle associatif et des outils et des démarches d'éducation populaire peuvent apporter justement à des luttes féministes?
Des outils pour la conduite des réunions, la prise des décisions, la prise de parole en public. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'analyse historique. Moi, j'ai appris chez les Anars, c'était pas un mouvement d'éducation populaire, mais l'organisation de manifestations avec peu de personnes. C'était évident qu'avec une cinquantaine de personnes, vous arriviez à rendre visible une action. Il y avait des trucs, des choses qui ne nécessitaient pas énormément de monde et qui faisaient son effet, quoi.
J'ai la sensation qu'il y a pas mal de mouvements féministes qui naissent de quelque chose presque lié aux émotions, enfin une colère, ou enfin qu'importe, mais en tout cas un besoin de se regrouper pour s'organiser et lutter contre, visibiliser ça, apprendre, etc. Et que l'histoire de l'éducation populaire, ça vient aussi, peut-être dans un second temps, accompagner ces collectifs dans leur structuration. Ce que disait André, une fois qu'on est là, qu'on est ensemble, qu'on fait collectif, comment on structure, on organise,
on organise, on se fait entendre, ouais. on gagne, parce qu'il y a des choses qui se sont gagnées quand même. Mais Je crois que les mouvements d'éducation populaire, parce qu'ils avaient besoin de la survie de leurs salariés aussi, étaient moins militants parce que le nombre de militants qui pouvaient être hors de ces contingences a diminué. Hein. Mm. Mais d'un autre côté, si ça a vécu, c'est bien parce qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie avec, hein. Notamment des femmes.
Mais des femmes qui étaient aussi... Ok, d'avoir des temps partiels, d'avoir des rythmes de travail très décousus ou discontinus, des salaires pas si élevés aussi. Enfin,
il y a
toute cette réalité-là, et je crois que les hommes ont très vite déserté aussi.
un peu aussi par nécessité, parce que s'ils avaient une famille en charge... Je sais pas, il faudrait voir combien il y a de gens vraiment célibataires, tu vois, dans les mouvements d'éducation populaire encore. Oui.
Ce serait intéressant de savoir à la fois sur les couples hétérosexuels, homosexuels et sur le célibat et vie de famille.
Et vie de famille. Hein. Ouais. Mais on peut pas faire cette étude de c'est trop intime. Mais c'est vrai que, tu sais, on n'avait pas beaucoup de temps pour des vies de famille. Hein. Même les, tu vois, les syndicalistes, c'était difficile pour eux.
Mais c'est intéressant à voir, effectivement, qui et comment, au-delà de la question du genre, prend le temps de militer et de s'investir dans des mouvements d'éducation populaire.
Alors, je voulais discuter, parce qu'il y a la question aussi de l'accès à l'éducation, qui a permis aussi l'émancipation des femmes, l'éducation en formation initiale. Et du coup, je voulais questionner plusieurs choses. Donc déjà, comme l'éducation populaire se veut faire formation tout le long de la vie, donc pallier aux inégalités qui sont rencontrées à l'éducation initiale, est-ce que les femmes ont constitué et sont encore aujourd'hui un public particulier de PEC et des assos d'éducation populaire en général? Et si le milieu associatif a été et encore aujourd'hui un espace privilégié et nécessaire, je suppose aussi à la socialisation de tous les individus, mais aussi particulièrement des femmes?
C'est le secteur social plus que l'éducation populaire qui a été un facteur de socialisation des femmes. Puisque, à l'après-guerre, il y a eu les services sociaux qui enseignaient les techniques ménagères surtout, mais qui alphabétisaient aussi, voire amenaient à un peu l'écriture hein, aussi, des femmes. Et les centres sociaux existaient partout. C'était financé par les caisses d'allocation familiale. Et je pense que c'est là, finalement, où les femmes ont pu sortir de chez elles et ont pu quand même avoir un certain rapport entre elles. Dans les associations d'éducation populaire, les femmes sont arrivées, sauf les enseignantes, qui étaient dans les amicales laïques, elles sont... Et les... Ah, il y a toute l'action catholique, hein.
Oui.
L'action catholique, avec d'ailleurs le démarrage de l'action de Peuple et Culture dans le Puy-de-Dôme, nous avons eu énormément de gens qui venaient de l'action catholique. Parce qu'un des syndicalistes et sa femme étaient très, très versés dans l'action catholique. Alors on a eu des gens de l'action catholique rurale, de l'action catholique ouvrière, qui sont venus à Peuple et Culture. Ils n'allaient pas à la Ligue de l'Enseignement, c'était trop laïque. D'ailleurs, tout s'est fondu et ils avaient déjà leur entraînement mental. Ça s'appelait voir, juger, agir, mais c'était un peu la même méthode qui venait de l'action catholique d'avant-guerre 39-45. Je pense que c'est là que les femmes sont sorties un peu de chez elles, là, par rapport à l'action de ces centres-là. Autrement, PEC, c'était formation des cadres. Hein. Donc, il y avait peu d'actions de base.
Il y avait beaucoup d'hommes dans ces formations?
Pour le formateur, oui, pratiquement. Oui. Avec beaucoup d'hommes, oui. Ah si, moi j'ai fait pas mal de formations de femmes dans les cadres infirmiers. Et qui nous a ouvert la porte des hôpitaux. Et on s'apercevait d'ailleurs de la hiérarchie masculine des hôpitaux. Alors là, c'était pas rien. Hein. Les chirurgiens en particulier, c'était quelque chose.
Oui, dans le médico-social, ça c'est encore plus flagrant que dans l'éducation populaire.
Oh là là.
Par rapport à la question, et en vous écoutant, je me dis que, en tout cas aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, enfin l'après-guerre, la formation des cadres, il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'évolution sociale, de pouvoir se former pour accéder aussi à de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions. Il y a eu une stratification aussi des responsabilités, etc. Donc c'est un contexte un peu particulier, mais aujourd'hui, je me dis qu'une personne qui entre en formation, c'est une personne qui a potentiellement besoin d'outils, mais une personne qui rentre en formation dans un réseau d'éducation populaire, c'est une personne qui, du coup, peut-être n'entre pas avec plein de certitudes, ou est en capacité de peut-être se remettre en question sur ses acquis, etc. Mon mauvais esprit me ferait dire que les femmes sont beaucoup plus capables de ça que des hommes. Donc est-ce que ça explique sûrement pas totalement le fait qu'il y ait plus de femmes qui aujourd'hui participent à des formations au sein de Peuple et Culture, mais je pense que en fait c'est quand même une certaine forme d'effort en fait de faire une formation aujourd'hui. C'est prendre du temps pour mieux faire, pour réfléchir sa pratique, pour évoluer dans cette pratique-là. Pas forcément pour acquérir de nouvelles compétences qui permettent d'accéder à un nouveau statut ou à un meilleur salaire. On est plutôt sur du mieux faire que du mieux être d'un point de vue salarié ou salarial.
Le problème, c'est l'acceptation de l'employeur
aussi.
Et le congé enfin, rémunéré de formation.
C'est vrai que c'est une des raisons qui peut limiter aussi la participation à des formations, parce que peut être complexe, oui.
Je voulais savoir si vous aviez des choses à rajouter qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder, des recommandations de lecture.
Je pense à un livre de Lorraine Bastide sur le féminisme et en quoi le féminisme va sauver le monde. Et en réalité, quand on le lit avec un regard un peu aussi éduc-pop, il y a plein de choses qui se croisent. Parce qu'en fait, elle rentre par la porte du féminisme et des luttes féministes. Mais en fait, derrière, c'est les valeurs de l'éducation populaire qui sont posées. L'engagement féministe est uniquement un outil, finalement, pour arriver à ce vers quoi on tend, notamment à Peuple et Culture.
Moi, j'ai beaucoup apprécié la trilogie, la quadrologie de Laila Slimani, qui raconte son enfance. Le féminisme dans un milieu qui l'acceptait pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très sensible, très bien écrit.
Eh bien, merci beaucoup pour les recommandations, pour vos interventions.
Merci
à toi.
Merci encore à Tatiana et André pour leur participation à ce podcast portant sur la place des femmes dans les mouvements d'éducation populaire et plus particulièrement APEC. Et vous, chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Génération Liée.